Bonsoir chère Lucille, nous vous écoutons.
Bonsoir Arnaud, on va parler technique un peu puisque la plupart des spectateurs, qu'ils soient critiques ou pas à Avignon cet été, n'ont pas manqué de remarquer la très grande présence, pour ne pas dire omniprésence, de la vidéo dans les mises en scène proposées par le IN. Cette année, les damnés dans la cour d'honneur de 1666, on va en parler je pense, et tristesse. Entre autres, en réalité je ne pense pas que ce soit une observation très fructueuse d'un point de vue théorique parce que ces spectacles sont très différents et n'utilisent pas du tout la vidéo de la même manière ni aux mêmes fins. Dans le cas des damnés d'Ivo Venom, on voit vraiment le dispositif sur scène. Il y a des caméramans qui sont hyper présents. Il y a quelque chose de très assumé dans cette utilisation-là. L'image filmée gêne, à mon avis, l'appréhension de ce qui se passe sur scène, ce qui d'ailleurs probablement est le but d'Ivo Venom, qui biaise ainsi son propre rapport au film de Visconti. Dans 2666, pour prendre un autre exemple, la vidéo est utilisée au premier degré. Elle est pour le spectateur un vrai moyen d'immersion dans la narration et notamment un soutien des très longs monologues, parce que là, pour le coup, ils sont longs, qui constituent une grande partie du roman et donc du spectacle. Bref, la vidéo partout, certes, mais employée de manière tellement différente qu'on ne peut pas, je pense, en dire grand-chose de général. En revanche, moins commentée et peut-être plus intéressante est l'omniprésence de la sonorisation des voix. Très peu de spectacles sans micro, même dans des petits espaces clos où elle n'est pas vraiment nécessaire d'un point de vue technique, comme dans la cour du lycée Saint-Joseph où sont donnés ces fameux sujets à vif qui sont des petites formes qui sont données devant une jauge très réduite. Alors il y a 2666, l'Institut Benjamin Tard, on va en parler aussi. Karamazov, on entendait un extrait, c'est assez clair, des micros partout. Et là, à mon avis, ça change quelque chose de fondamental dans le rapport qu'entretiennent les spectateurs à la scène, même si c'est moins spectaculaire que la vidéo. Les comédiens peuvent chuchoter, les comédiens peuvent clamer pendant des heures sans s'épuiser la voix. On entend toujours tout, même dans la cour d'honneur ou à la carrière Boulbon, qui sont des lieux difficiles où parfois on était habitué à entendre moins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je me souviens de spectacles où la fragilité vocale était très belle et faisait même partie de l'émotion du spectacle. Et surtout, ça change quelque chose au jeu et à ce que veut dire la performance théâtrale. Le micro signe la fin des voix projetées, de la déclamation. L'emphase et le débit s'en trouvent modifiés, ressemblant à ce qui se fait au cinéma. Par exemple, c'est pas du tout négatif dans ma bouche. On se rapproche, par exemple, de ce que fait le théâtre allemand. Quelque chose de plus fluide, de plus simple, peut-être à l'écoute. Bref, peut-être une sorte d'aplanissement ou d'internationalisation du jeu dans un rapport à la mise en scène profondément modifié.
Merci Lucille pour cette introduction, cette entrée dans le petit salon. C'est intéressant de se souvenir, vous évoquiez, Joël, les polémiques passées aussi, théâtre d'image contre théâtre de texte, toutes les années Hortense Archambault, Vincent de Baudrier. C'est aussi une façon de repartir sur le sujet que nous propose Lucille Comeau ce soir. L'utilisation de la vidéo, c'est vrai, est très différente selon les spectacles.
Oui, Lucille a raison. Il faudrait pouvoir détailler spectacle par spectacle l'usage de la vidéo et sa nécessité aussi, parce que parfois elle ne l'est pas.
Ou son absence de nécessité.
Ou son absence de nécessité, c'est plus exactement dit. Il me semble que la vidéo est entrée dans Avignon. Elle fait partie complètement des usages avignonnais et ça date depuis assez longtemps. D'ailleurs, au début, elle a choqué pas mal. Comme a choqué le surtitrage, hein, les spectacles étrangers surtitrés recevaient à chaque fois une salve de papier disant mais comment ça on peut pas à la fois voir un spectacle et lire les surtitres. Donc la vidéo a pu gêner. Moi je trouve que la vidéo c'est une écriture, ça devrait être une écriture.
Ça l'est parfois,
ça ne l'est pas tout le temps. Comme on n'est pas là pour faire la critique de 2666 ou des
années. Non mais on peut s'en servir ce soir, bien sûr, de l'un et de l'autre.
Je pense que effectivement dans le cas du spectacle de Julien Gosselin, c'est une écriture. Ce n'est pas juste une illustration, ce n'est pas juste quelque chose qui lui permet de faire passer du monologue. C'est un autre média, un autre médium dont il se sert pour approfondir un champ, pour entrer dans une intériorité et ainsi de suite. Par exemple, le spectacle Tristesse d'Anne-Cécile Vandalem recourt à un usage de la vidéo qui est tout à fait judicieux puisqu'elle ne sont filmées que les scènes qui se passent à l'intérieur des bâtiments qui sont sur le plateau. Là, c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose avec la vidéo qui se passe qui est un peu inédit.
Intérieur, extérieur,
différent.
Vraiment.
Après, il y a pas mal d'autres spectacles où la vidéo est là. Est-ce que c'est un supplément d'âme, un petit confort?
Une béquille.
Une béquille et un outil esthétique. C'est-à-dire que dans 2666, on sent clairement que la vidéo et les micros, parce que j'insiste un peu, sont quand même des outils techniques pour tenir aussi la longueur et pour permettre à ces acteurs qui sont peu nombreux de jouer aussi longtemps.
Mais là, c'est l'utilisation d'un outil, quand je disais béquille, c'est comme les tournettes. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
c'est aussi une esthétique très particulière.
Oui.
particulière. Oui. Les deux peuvent tout à fait.
Quand je parle de béquilles, c'est au sens cache-misère. Quand un metteur en scène n'a pas d'idée, on va faire une vidéo. Évidemment, il va se passer quelque chose. On va amener une émotion qui n'existerait pas sans ça. Là, c'est pour ça que je voulais parler de béquilles, ce qui est pas le cas, à mon avis, de Julien Gosselin. Philippe Chevillier.
Oui. Alors, il y a aussi une dimension économique, parce que d'une certaine façon, il y a des gens qui se sont dit, bon, les décors lourds, on va remplacer par de la vidéo. Enfin, tous ces éléments.
On l'a vu même à la Comédie Française, il n'y a pas si longtemps, trois murs vidéo qui faisaient des corps. Je ne sais plus, c'est le spectacle de Gérard de Sarthe, me semble-t-il. Ou non, pas Gérard de Sarthe, un autre. Mais voilà, c'est rentré partout.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est vrai, il y a toujours un petit peu de retard et il y a eu des polémiques sur l'utilisation de la vidéo. Alors après, on peut ne pas aimer un spectacle et dire que c'est à cause de la vidéo. C'est vrai que ça date de, quand même de très longtemps. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu un spectacle où je me suis dit, tiens, la vidéo est bien maîtrisée, c'était Braunschweig en 1999, La Flûte Enchantée à Aix, où je m'étais dit, tiens, ça fonctionne, ça marche, et c'était plus seulement un gadget. Alors, après, c'est devenu un accessoire, et après, c'est devenu un élément de décor. Et maintenant, je pense qu'on arrive, parce que pour des raisons techniques, à maîtriser tout ça plutôt très bien. Et moi, j'ai trouvé justement qu'à Avignon, pour moi, le problème ne s'est pas posé. Après, on peut avoir encore une fois des discussions esthétiques, mais dans les spectacles où je l'ai vu, aussi bien les derniers que de 1968, la vidéo m'a paru évidente parce qu'elle faisait partie intégrante de la mise en scène, parce qu'on pouvait jouer à la fois du gros plan, de ce qu'on pouvait voir en live comme sentiment qu'on pouvait voir en gros plan, du passé, parce qu'il y a des scènes enregistrées. Donc moi, ça m'a paru assez évident. Moyennant quoi, c'est aussi, faut savoir que c'est aussi des metteurs en scène qui n'utilisent pas forcément, qui ne sont pas hystériques de la vidéo. La preuve, c'est que Van Hove a...
Vu du pont,
il n'y en a pas. Et Marie Stuart, il n'y en avait pas trop.
Et dans les particules élémentaires non plus.
Et dans les particules élémentaires, c'est exactement ça. Il y avait quelques images placardées.
C'est du graphisme.
Donc, c'est pas tout d'un coup... En plus, c'est pas du tout des metteurs en scène qui, tout d'un coup, se pâment devant la vidéo. Donc, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne un gadget, évidemment, ou... une façon de faire de l'effet.
L'utilisation, parfois, plus... quel est le mot pour pas froisser, j'allais dire feignante, mais une certaine paresse en tout cas, chez quelqu'un que j'aime beaucoup, Christophe Varikovsky par exemple, sur certains de ses derniers spectacles, il y avait parfois des moments de vidéo qui étaient... Voilà, des facilités qui m'ont étonné chez lui.
Mais en fait, bon, il faut quand même rendre, je crois, à César ce qui est à César. Je vais au théâtre depuis les années 90. Celui qui a quand même amené la vidéo en faisant un instrument au service de la dramaturgie, et on va bientôt voir un spectacle de lui, c'est Franck Castorf. A utilisé la vidéo de manière dynamique, de manière énergique, comme jamais on avait vu utiliser la vidéo avant lui, et après, il n'y a eu finalement que des épigones de Castorf, et c'est très bien, ça a été décliné, ça a été repris. Moi, j'attends toujours que quelqu'un utilise la vidéo encore d'une autre façon. Je l'ai vu une fois cette année dans un spectacle d'Arthur Musiciel qu'il a présenté au CDN d'Orléans. C'était son dernier spectacle avant la fin de la saison 2015-2016. Mais sinon, ça fait longtemps que la vidéo ne m'a pas surprise dans son usage.
L'usage des performances filmées de Cyril Test, qui fait un film en même temps qu'il fait une mise en scène de théâtre.
Et on entre dans autre chose, c'est-à-dire que même Cyril Test, il ne parle pas de mise en scène de théâtre.
Filmique.
Il parle de performance filmique. Donc, on entre dans une ambiguïté, un trouble qui est voulu par lui
et
qui est son
moi.
Label, qui est effectivement le trouble entre cinéma et théâtre et qui place le spectateur dans une position qui
très
est
étrange, parce qu'il y a les
double,
deux.
Hein,
on voit les deux. On peut regarder les deux.
On peut regarder les deux. On peut choisir de ne regarder qu'un plan, le théâtre ou la vidéo. En tout cas, il assigne le spectateur à une place qui est à la fois confortable et totalement inconfortable.
Oui, c'est ça qui m'intéresse.
C'est ça qui est génial.
Et moi, j'ai eu l'expérience aussi avec Jataï, que moi, les trois sœurs.
Christiane Jataï.
Où ayant vu
Alors, il faut expliquer à les trois sœurs, donc très remanié, avec le public invité à rentrer soit dans la salle de théâtre pour commencer, soit dans la salle de cinéma. Et on change à la mi-temps, mais on rejoue le même spectacle.
On rejoue le même spectacle.
Mais on le voit une fois avec les comédiennes. C'était que des femmes, me semble-t-il. Non, il y avait des hommes aussi, en chair et en os, si je puis dire. Et l'autre, dans l'autre salle, on le voit sur écran.
Et ce qui est intéressant, c'est que vu, si l'on voit que l'un des deux, ça, on se dit c'est vraiment insatisfaisant. Et ça ne prend du sens que quand on a vu les deux. Donc là, c'est un mariage théâtre-vidéo-cinéma qui est vraiment, en plus avec les acteurs qui viennent saluer à la fin des deux côtés, donc ils traversent l'écran. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup plus. On n'a pas beaucoup parlé du.
Non, mais justement, ce que je suis en train de me dire, Lucille Como, c'est que.
Et c'est ça qui m'intéressait.
Voilà. Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans votre lancement, c'était pas simplement. C'était pas tellement la vidéo qui était intéressante. C'était le son. Mais de fait, ça vous fera un sujet pour un lundi à venir.
Exactement.
Non, parce que sur la vidéo aussi, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Vous avez beaucoup aimé 2666, par exemple. On en reparlera ensemble dans quelques semaines, ici même, avec une utilisation très. Très riche et très différente au sein du même spectacle. Bon, il faut dire qu'il y a la durée qui le permet, mais la vidéo a à peu près tous les usages avec Julien Gosselin. Me semblait.
Mais on peut dire un mot de la sonorisation ou pas
On le garde pour une autre fois, non, parce qu'on a un programme riche. Il est 21h36.
C'est intéressant.
Dans quelques secondes.
Lucie, la on a encore.
Non, mais absolument. Mais c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est bien, on va le garder pour un autre lundi, parce qu'on a l'Institut Badajamata, on a 20 novembre. On aimerait dire quelques mots de certaines passilles télévisuelles. J'aimerais évoquer un spectacle dans le off. Donc, nous allons sortir du petit salon. C'est